Bonsoir. Situation sécuritaire Nord-Kivu, de nouveaux affrontements ont opposé les FRDC et les M23 hier à Kanyamaoro, dans les territoires de Nyiragongo. Dans un communiqué publié ce mardi, le M23 dénonce l'attaque de ses positions et le contrôle total de Kanyamaoro par les FRDC. Ces mouvements rebelles exigent le retrait immédiat des FRDC de ses positions de Kanyamaoro. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec Julien Paluku, il est gouverneur de la province du Nord-Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Il va nous rejoindre, c'est maître Jean-Paul Lumbulumbu. Il est avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord-Kivu. Il est aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Lui aussi va nous rejoindre, c'est maître Morbert Senga. Il est avocat et analyste politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nord-Kivu, les forces armées de la RDC et les M23 se sont affrontées la nuit dernière à Kanyamaoro. C'est dans le groupement Bumba, en plein parc de Virunga, 30 km au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. Les FRDC, à travers leur porte-parole au Nord-Kivu, disent avoir été provoqués par les M23, ce qui refuse ces derniers. Des précisions avec Gisèle Kaja.
Les FRDC se sont affrontés avec les éléments du M23 pendant au moins 20 minutes vers 2h du matin à Kanyamaoro, à en croire nos sources dans la région. Les deux belligérants qui s'est partagé jusque-là le contrôle de Kanyamaoro se rejettent la responsabilité de cette attaque. Selon le porte-parole des FRDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, les forces armées de la RDC ont réagi à la provocation du M23 qui tentait de percer leur position à Kanyamaoro. De son côté, le M23, à travers un communiqué publié ce mardi, dénonce l'attaque de ses positions et le contrôle total de Kanyamaoro par l'armée régulière. Toutefois, les armes se sont tues depuis ce matin et la situation est revenue à la normale dans cette région. Le colonel Olivier Amouli prévient toutefois le M23, les FARDC réagiront avec force à chaque fois qu'elles seront provoquées. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Toujours au Nord Kivu, la population du territoire de Rutshuru rapporte que plus de 80 jeunes en provenance du Rwanda sont entrés lundi dernier en RDC à partir de Kibumba avant d'être envoyés par les M23 au centre de Rumangabo. Cette information s'ajoute à plusieurs autres rapports de la société civile du Nord Kivu dénonçant les infiltrations et autres renforts militaires qui reçoivent les M23 dans la zone sous son contrôle. Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous, comment vous analysez cette situation?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que dans ce pays, finalement, on aura tout vu, on aura tout entendu. Quand un mouvement rebelle doit donner un ultimatum à une armée gouvernementale sur la récupération d'un espace. Vous savez, les forces armées de la RDC n'ont pas de leçons ni de reproches à recevoir lorsqu'elles récupèrent une portion du territoire national. C'est un peu comme un voleur qui est entré dans la maison. Le propriétaire est en train de les sortir de la maison qui a 3 chambres, il a déjà sorti dans 2 chambres, et puis le voleur dit, monsieur, je dois récupérer 2 autres chambres. C'est un peu ça l'image que je donne lorsque j'ai entendu l'M23 en train d'ergoter autour de cette question. Mais que s'est-il passé? Il faut que les gens sachent exactement. C'est que l'M23, lorsqu'il a perdu les verrous de Kibati, de Kilimanyoka, des 3 antennes, il n'a plus de chantage à faire sur le gouvernement. Et il était en train, dans la nuit d'avant-hier à hier, il voulait effectivement déborder en passant par les pieds du volcan Nyiragongo pour aller dans les Masisi. Parce qu'il voudrait s'installer dans les Masisi et y commencer une nouvelle guerre. Malheureusement pour lui, il croyait que les forces distraites, parce que c'est quand les éléments du M23 étaient au sein des FRDC qu'ils amenaient la distraction au sein de l'armée. Maintenant, ils ont retrouvé les éléments des FRDC bien positionnés dans les pieds du mont Nyiragongo et les éléments ont réagi, ils les ont poursuivis, ils les ont même délogés de leur base arrière de Kanyamaoro. Il faut que les gens le sachent comme ça, c'est pas les FRDC qui sont venus récupérer Kanyamaoro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite colline qui est située sur la route Goma-Kibumba, qui n'a ni population, ni intérêt stratégique pour les FRDC. Et tout le monde sait que si si les FRDC doivent commencer un combat, c'est pour récupérer l'ensemble du territoire de Rutshuru et non pas une petite colline située au bord de la route. C'est ça la compréhension que les gens doivent avoir par rapport au combat qui ont eu lieu.
Monsieur le gouverneur, vous dites que Kanyamaoro n'a pas d'intérêt stratégique. Pourtant, les M23 ont donné au FRDC un ultimatum de 48 heures pour qu'elle se retire de Kanyamaoro. Sinon, il va riposter. Il dit que les FRDC ont franchi la ligne rouge. Alors, lorsque vous dites que ça n'a pas d'intérêt stratégique, cela veut dire quoi?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de ligne rouge. Je l'ai dit au début, on n'a pas de leçons ni de reproches à recevoir des mouvements rebelles. C'est un peu comme si la LRA prenait une partie du territoire ougandais et la LRA dit au président Museveni, monsieur, ne reprenez pas votre entité. C'est un peu comme le FDLR qui prendrait une partie du Rwanda et puis le FDLR dit au président Kagame, non, laissez-nous Rwenguéri. C'est ça l'image que j'ai de ce que le M23 a dit. Tout ce que la population du Nord Kivu attend, c'est que les M23 tentent de provoquer les FRDC. Aujourd'hui, les forces armées ne sont plus comme avant. Tout le monde a senti ce qui s'est passé. Je crois que ce sera l'occasion pour les FRDC, si elles sont troublées, de devoir continuer les opérations pour qu'on libère totalement Rutshuru. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce sont les éléments du M23. Lorsqu'ils étaient à l'intérieur de nos forces armées, qui provoquaient la distraction, qui étaient des infiltrés, qui faisaient en sorte que tous les combats, on les perdait, parce qu'ils collaboraient effectivement avec l'ennemi. Maintenant que les FRDC sont restés intacts, sont restés en dehors des infiltrés, à l'intérieur d'elles-mêmes, on voit les résultats auxquels on est en train d'arriver. Donc on n'a pas peur, parce que l'idée du chef de l'État et de l'État-major général, c'est que à chaque fois que les M23 vont devoir provoquer les FRDC, il faut frapper, occuper, contrôler et les éloigner. C'est ça la stratégie qui désormais a été donnée au FRDC et je crois qu'ils vont s'en tenir à cette stratégie pour que finalement nos territoires ne soient plus les théâtres ou les jeux de quiconque voudrait venir faire une promenade comme il le voudrait. Voilà un peu moi l'analyse que je peux faire à ce stade.
Monsieur le gouverneur, ces affrontements ne compromettent-ils pas les pourparlers de Kampala?
Non, moi je ne pense pas, parce que la finalité de pourparlers de Kampala, c'est qu'on restaure l'autorité de l'État. Nous avons été aux concertations nationales. Tout le monde voudrait qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, Kanyamaoro, une petite colline qui n'a ni population, ni culture, à moins que peut-être il y ait de l'or à l'intérieur, comme on a appris qu'ils font un trafic d'or où ils gagnent 500 millions là, peut-être c'est ça l'intérêt qu'il y a dans cette colline. Et si c'est le cas, les FRDC ont alors des raisons de devoir les y éloigner pour ne pas continuellement les financer, si c'est cela le cas. Et je ne pense pas qu'au stade actuel, cela puisse compromettre, parce qu'in fine, les FRDC devront récupérer tous les territoires occupés par la rébellion. Et si déjà aujourd'hui, la provocation du M23 peut permettre qu'on récupère 2 ou 3 portions, je pense que c'est Kampala plutôt qui est en train d'être examiné à travers la récupération par les FRDC de son territoire.
Monsieur le gouverneur, les deux parties s'accusent mutuellement de préparer la guerre. Cela veut dire quoi? Que Kampala est encore valable parce que la communauté internationale fait pression, que si tout ne dépendait que des deux parties, Kampala n'existerait plus?
Moi, ma position est claire, je l'ai souvent dit. Moi, ma position, elle est claire. Pour Julien Paluku, la solution à la crise actuellement au Nord Kivu, elle est militaire. Mais comme les chefs d'État sont réunis dans une des grandes conférences, dans un des grands sommets, pour demander qu'on écoute les doléances légitimes, eh bien, la délégation aujourd'hui du gouvernement est à Kampala, le ministre des Affaires étrangères lui-même y est, pour qu'on tire finalement les choses au clair. Et je sais que il y a quelques temps, le gouvernement a sorti une liste intangible, si je peux l'appeler ainsi, de près de 80 personnes qui ne peuvent pas bénéficier ni de l'amnistie, ni intégrer les forces armées, parce que ce sont les mêmes qu'on a amnistiés en 2003, ce sont les mêmes qu'on a amnistiés en 2007, ce sont les mêmes qu'on a amnistiés en 2009, ce sont les mêmes qu'on a intégrés plusieurs fois dans l'armée, mais à la suite de l'intégration, on a trouvé que ce n'était pas ça la solution au problème du Nord Kivu. Et que donc aujourd'hui, Kampala est claire, et c'est la raison pour laquelle pour nous estimons que nous devons être très vigilants par rapport au reste. Parce que les infiltrations qu'on est en train d'apprendre ça et là, risquent finalement d'être un autre appui des partenaires du M23 qui ramènent les hommes des troupes qui ne sont pas connus, qui viendront gonfler effectivement les rails du M23 pour qu'à l'intégration, on intègre encore des infiltrés au sein de nos forces armées pour que plus tard, ce soit eux qu'on utilise pour devoir commencer une nouvelle rébellion. Donc toute cette prudence-là, je crois que nous devons l'avoir attaqué parti gouvernemental et nous devons tirer des leçons des expériences passées qui ont été des expériences malheureuses où on a fait le brassage, on a fait le mixage, on a fait l'intégration accélérée.
Merci,
et tout ce processus, j'ai été témoin de ce processus depuis que je suis gouverneur depuis 2007.
Merci Maître Jean-Paul Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et je rappelle que vous êtes avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. Vous êtes aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Quelle analyse vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, monsieur Guimaté. Je voudrais d'abord saluer le gouverneur de la province du Nord Kivu sur le plateau, ainsi que monsieur Jean Maubert, avec qui nous allons partager ce plateau. Vous savez, pour une fois, je me sens plus ou moins à l'aise, et alors très à l'aise, de partager le plateau de la radio Capi dans un thème aussi complexe comme celui-ci avec son Excellence Monsieur le Gouverneur Julien Paluku. J'ai dit cela parce que je me rappelle que le 29 mars 2003, alors que le gouvernement venait de signer l'accord de paix avec le CNDP, j'ai eu le privilège de partager encore une fois le plateau avec lui, ensemble avec le porte-parole du CNDP à l'époque. J'ai rappelé au gouverneur de province que la partie gouvernementale aurait commis une grave erreur et cela compromettrait la stabilité à l'est du pays si le gouvernement devrait accepter que les ex-militaires du CNDP puissent être intégrés dans l'armée congolaise et qu'ils puissent rester dans la province du Nord Kivu. J'avais recommandé à l'époque que les ex-militaires CNDP puissent aller partager les casernes avec d'autres militaires dans d'autres provinces. Je pense que la réponse du gouverneur à cette époque-là n'était pas celle-ci et je suis très à l'aise parce qu'aujourd'hui le gouverneur lui-même reconnaît qu'ils doivent tirer les expériences malheureuses du passé. Ça veut dire que l'expérience qui a été mise en pratique en 2009, elle est une expérience tout à fait malheureuse et qu'aujourd'hui il faut que le gouvernement puisse tirer les leçons et qu'il ne puisse plus revenir sur les mêmes erreurs. Ça c'est une affirmation du gouverneur qui me plaît et qui me fait voir qu'au moins il y a une évolution dans la perception de la question de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Quant à votre question, je dois souligner une chose. Écoutez, le M23, à mon avis, c'est bel et bien une transformation du CNDP. Et que donc, aujourd'hui, consacrer l'intégration des militaires du M23 dans l'armée congolaise, je suis en train de le dire, ça serait une façon d'abord de cracher sur la mémoire de ces milliers de Congolais qui ont été tués par le M23, ça serait cracher sur la mémoire de toutes ces victimes de violences sexuelles, les victimes de viols, de pillages, de massacres commis par le M23, ça serait une façon de pouvoir consacrer l'impunité. L'opposition politique du Nord Kivu a été catégorique depuis le début de la crise. Est hors de question pour le gouvernement que nous puissions encourager le gouvernement. D'abord, avec les pourparlers de Kampala, nous avons pris position depuis 2012 sur la question des pourparlers de Kampala. Nous n'avons jamais encouragé le gouvernement à poursuivre les pourparlers de Kampala, parce que pour nous, les pourparlers de Kampala allaient aboutir certainement à un accord déjà intégration des militaires du M23 dans l'armée congolaise, intégration des cadres politiques du M23 sur la scène politique, et ça serait l'amnistie en défaveur des milliers de victimes qui ont été, des personnes qui ont été victimes de fait du M23.
Et
aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec le gouverneur Julien Paluku quand il reconnaît que l'expérience du passé ne doit pas être rééditée. Je pense que par rapport à cette question-là, au Nord Kivu, nous n'avons plus opposition majorité parce que c'est l'intérêt supérieur de la population que nous sommes en train d'envisager dans cette question. Et pour une fois, je suis en train de constater que nous sommes en train de cheminer sur la même longueur d'onde avec le gouvernement.
Oui, vous dites qu'il y a eu évolution, n'est-ce pas, dans la perception de cette crise, mais quelle lecture vous faites de cette situation, hein? Le gouvernement central continue à croire à la solution politique, tandis que le gouvernement provincial ainsi que la société civile du Nord Kivu estiment que la solution est plutôt militaire.
Ben, nous avons pris position par rapport à cet état des choses. Nous avons estimé que La solution politique, si elle peut avoir lieu, elle doit avoir lieu à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre parti a adhéré à ce qu'on appelle la coalition pour le vrai dialogue. Parce que dans cette vision de la coalition pour le vrai dialogue, même les acteurs de groupes armés devraient être appelés sur une même table, ensemble avec l'ensemble de la classe politique congolaise, afin qu'on puisse débattre des problèmes de fond. Mais par rapport à la solution politique telle qu'envisagée par le gouvernement, pour nous, Kampala ne fera qu'amener au gouvernement un accord du 23 mars bis que la population du Nord Kivu est en train de rejeter. Heureusement que le gouverneur de province le reconnaît. Donc pour l'opinion au Nord Kivu, à l'est du pays, il n'est pas question que le gouvernement nous ramène un accord de paix signé avec le M23. Je pense que la population du Nord Kivu ne sera pas d'accord avec cette solution-là. Pour nous, nous pensons que la solution est d'abord militaire. Il faut achever militairement le M23. Et dès lors que le M23 va disparaître militairement, l'on rappellera les enfants et on pourra les écouter pour essayer de voir ceux qui veulent intégrer l'armée. Ils vont suivre les processus normaux d'intégration dans l'armée, les recrutements normaux comme tout autre Congolais. Ils vont avoir des grades en fonction de leurs compétences et de leur engagement dans l'armée. Donc il est hors de question que nous puissions soutenir une option militaire qui va permettre au gouvernement d'intégrer encore les militaires du CNDP dans l'armée congolaise.
Maître Lumulumu, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Charles Moussagoma, j'appelle depuis la ville de Bukavu, sur Kivu. Moi, j'ai l'impression que la rébellion du M23 trouve le gouvernement très naïf. Dans quel pays avez-vous déjà trouvé une rébellion donner ordre à un gouvernement légal qui abandonnait telle localité ou telle région et qui fait partie intégrante du pays? Je pense qu'actuellement, il faudrait que le gouvernement continue à pourchasser le M23 jusqu'à les chasser du pays. Et après cela, Kampala va finir de soi, puisque là, on ne pourrait pas agir avec les dos cloisonnés au mur. On sera libéré du mur, puisqu'actuellement, il y a un problème. Après les concertations nationales, moi, je suis en train de me poser la question si le palais de Kampala contredisait certaines résolutions qui ont été arrêtées par les concertations nationales. Qu'est-ce qui pourra se passer au pays?
Oui, il vous rejoint.
Et tout à fait. Je suis satisfait que cet auditeur ait presque la même perception que la mienne, parce que, écoutez, Kampala, les concertations, vous allez comprendre que ce sont deux choses qui ne se rencontrent pas. Et à la limite, il dit que le gouvernement est naïf. Moi, je me dis, aujourd'hui, si le M23 peut se permettre de demander au gouvernement de lui céder la localité des
Kanyamahoro,
mais écoutez, c'est le gouvernement qui a légitimé le M23. Lorsque, par exemple, le gouvernement, à travers la CIRGL, va signer un document dans lequel on reconnaît la légitimité des revendications du M23, c'est le gouvernement qui a donné la légitimité au M23. Si aujourd'hui, donc, le M23 s'étargue de cette capacité, c'est la faute revient au gouvernement. Mais je suis content si le gouvernement aujourd'hui commence à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, je suis très à l'aise parce qu'il y a maintenant une évolution dans la perception de la crise et je suis très sûr que nous allons avoir également une évolution dans la proposition à cette crise. Donc, il appartient plutôt au gouvernement de pouvoir reconsidérer sa position par rapport au M23, de pouvoir se désengager d'un certain nombre de documents au sein de la CIRGL. J'ai conseillé même au gouvernement à un certain moment de se désengager de tous les engagements pris de la CIRGL, parce que la CIRGL est venue entamer même la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo.
Merci. Maître Jean Morbert Nsenga, vous êtes avocat et analyste politique. Comment peut-on comprendre ces nouveaux affrontements au moment où se tiennent les pourparlers de Kampala?
Oui, bonsoir. Je me fais également l'agréable devoir de saluer Monsieur le Gouverneur et Monsieur Lumbulumbu, le confrère Maître Lumbulumbu, ainsi que tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent à ce moment. Pour commencer, permettez-moi de vous faire part d'une petite anecdote. J'ai parlé aujourd'hui avec un monsieur de Kibumba qui m'a expliqué qu'en fait Kanyamahoro signifiait en langue locale la colline de la paix. Est-ce que c'est cela l'enjeu de cette guerre? Non, je ne sais pas. J'aimerais également réagir en quelques mots au propos de monsieur le gouverneur par rapport à deux ou trois éléments. Dans un premier temps, Monsieur le gouverneur s'est étonné, en même temps que tous les Congolais, que c'est anormal qu'un groupe armé comme la M23 puisse donner un ultimatum à l'armée congolaise pour reculer à l'armée nationale. Mais moi je partage ce point de vue, mais les Congolais du Nord Kivu, les Congolais de Goma se rappellent que ce ne serait pas la première fois que la M23 donne un ultimatum ou un ordre à l'armée congolaise et que celle-ci l'exécute en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment très dommage. On se rappellera qu'au début de cette rébellion du M23, au début de l'année 2012, à Mushaki, le gouvernement avait décrété une sorte de trêve. Cette trêve a permis par la suite aux éléments de Ntaganda à l'époque de prendre le chemin de la forêt et de se retrouver à Runyoni et dans le Rutshuru. Le 3 mars 2012, c'est 2013 d'ailleurs, c'est tout récemment, à Rutshuru et Kiwanja, le M23, après les affrontements entre les deux factions de ces éléments, s'était retiré de Rutshuru et Kiwanja. Et les FARDC avaient réoccupé ces deux cités, ainsi quelques localités aux alentours. Mais 24 heures après cette reprise de ces deux cités, à la demande de la CIRGL, évidemment sous la demande indirecte du M23, les FARDC s'étaient retirés de ces deux cités sans combat. Cela s'est passé également le 15 et le 16 novembre 2012 à Kibumba, après une victoire des FARDC sur le M23 et leurs alliés, dont les médias avaient parlé, dont le gouvernement s'était vaillamment vanté.
Maître.
Les FARDC avaient stoppé net. Oui, je vous écoute.
Oui, cela veut dire que tout est possible. Les FARDC peuvent se conformer à ce nouvel ultimatum du M23.
En tout cas, ce ne serait pas la première fois. Donc moi je dis, si aujourd'hui le gouverneur peut nous rassurer, le gouvernement peut rassurer la population qui nous écoute que cette fois les FARDC vont tenir et qu'elles vont progresser, alors tant mieux. Mais le contraire n'est pas impossible, d'autant plus que par le passé, cela s'est déjà produit.
Maître.
L'autre élément, c'est peut-être dire la stratégie dont le gouverneur a parlé. Moi, ça me paraît être une stratégie étrange. Ça veut dire, si l'M23 nous attaque, alors les FARDC répliquent et elles avancent un tout petit peu. C'est ça la stratégie, nous dit le gouverneur, que le gouvernement de la République a adopté. Mais comment est-ce possible qu'une armée nationale qui tient à récupérer un territoire injustement, illégitimement occupé, puisse attendre d'être provoquée pour répliquer et avancer? Je ne comprends rien à cette stratégie et je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent rien non plus.
Oui, mais il faut reconnaître, Maître, que tout cela se passe dans un contexte où un processus de paix est en cours à Kampala.
Oui, je pense que je ne serai pas le premier analyste à relever que le processus de Kampala est tout sauf un processus de paix. C'est un processus tout court, donc quelque chose qui dure et qui reste dans la durée, parce que nous devons nous rappeler que c'est depuis le 9 décembre 2012 que ces pourparlers ont été lancés. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, la conférence, le sommet de la CIRGL avait dit clairement que dans les 14 jours, ces pourparlers devaient se conclure. Aujourd'hui, si on compte, on est à 14 fois 2 ou fois 3, et ces pourparlers ne se sont jamais conclus. Alors, un processus de paix, quel est ce processus de paix si on ne peut pas évoluer et dire, voilà, on a d'abord au début, le gouvernement a dit, nous allons entendre ce qu'ils disent. Ils ont évalué l'accord du 23 mars 2009 et ils ont conclu que l'accord avait été exécuté au moins à 2/3. Et le gouvernement estimait que cette évaluation suffisait et qu'il devait mettre en œuvre le reste des éléments de cet accord-là.
Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on négocie? Qu'est-ce qu'on continue à négocier à Kampala?
Maître, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kisangani en province orientale.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle de depuis Kisangani à province orientale. Ce courage du M23 doit interpeller notre gouvernement qui semble accepter tout ce que la CIRGL, l'ONU et l'Union africaine parlent et proposent pour la situation de l'Est, alors que ces décisions tardent à venir et donnent l'orgueil au M23. Et ces dirigeants se prétendent maintenant d'être des dirigeants d'un pays qui est massif et autour. Avec de telles déclarations du M23, le retour de la délégation de Kinshasa à Kampala sera considéré pour moi des complices. Ne voyez-vous pas que le M23 est cible de tout ce qu'ils sont en train de faire si la position du gouvernement semble ne pas être efficace?
Oui, maître, nous ne sommes pas seuls. Nous évoluons dans une communauté qui a aussi un point de vue qu'il faut prendre en compte.
Oui, une communauté, je veux bien, mais la République démocratique du Congo est un pays souverain, du moins théoriquement. Mais c'est aux dirigeants de la République, au gouvernement, de montrer en quoi on est un pays souverain, c'est-à-dire un pays qui s'assume lorsqu'il prend une option, il l'observe. La remarque de l'auditeur, en fait, rappelle aussi l'élément des leçons dont le gouverneur a également parlé, les leçons qu'on aurait dû tirer du passé. Mais ces leçons, on semble les circonscrire à la question de l'intégration, même si là aussi, il y aurait des choses à dire, parce que apparemment la leçon n'a pas été très bien maîtrisée. Parce qu'on nous parle de 80 personnes, cette liste, je crois savoir qu'elle a été réduite récemment à une quarantaine de personnes seulement, sauf avis contraire du gouverneur. Mais on semble circonscrire la leçon à cette seule question, alors qu'on devait l'étendre à d'autres, comme par exemple la question des négociations et d'accord avec des mouvements rebelles. Parce que il y a eu la conférence de Goma en 2008, où tous les groupes armés sont venus, ils se sont assis. Il y a eu l'acte d'engagement de Goma. Et par la suite, il y a eu l'accord de 2009. Mais pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce que cet accord-là n'a pas marché? On va tirer des leçons par rapport à cela. Qu'est-ce que cela implique que de dire une rébellion, c'est une force négative? On a même dit pire que ça. On a dit que c'était une agression du Rwanda et de l'Ouganda. Mais en même temps, on va se retrouver sous la même table avec ce groupe armé, cette force négative.
Merci, maître.
Et on va se retrouver dans un pays agresseur, on s'assoit, on prétend négocier. Quelle leçon peut-on nous dire qu'on a tiré des erreurs du passé? Moi, je pense
Merci, maître.
Qu'on continue de voguer dans ces mêmes erreurs à tout point de vue.
Monsieur le gouverneur, ce n'est pas la première fois que le M23 lance des ultimatums. Chaque fois qu'il a lancé un ultimatum, il a toujours obtenu gain de cause. Et on pense qu'il y a aussi possibilité que, par rapport à ces nouvelles ultimatums, que les FARDC puissent s'y conformer.
Oui, merci bien. Quand j'ai commencé cette émission, effectivement, Maître Lumbulumbu et Jean-Norbert n'étaient pas en ligne. Je voudrais à mon tour commencer par les saluer avant de répondre à votre question. Monsieur le journaliste, vous savez que quand on dit quelqu'un a de l'expérience, ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Quand quelqu'un a de l'expérience, c'est pour avoir commis beaucoup d'erreurs et de fautes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lance des appels d'offres, on dit avoir une expérience de 5 ans ou de 10 ans. C'est pour que celui qui a commis d'erreurs et de fautes puisse faire bénéficier au nouvel emploi auquel il accède, ces erreurs et ces fautes-là. Et que donc, pour moi, j'estime que tout ce que nous avons tenté de faire à une certaine époque constituait des solutions à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ces solutions momentanées se sont transformées en cause du problème. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les paliers tels que je les décris. Aujourd'hui, comme hier, ça ne se ressemble pas. Nous avions récupéré Kiwanja, comme l'a dit maître Jean-Norbert Senga, effectivement, sur conseil encore de certains partenaires, on a dit, bon, on est dans un processus, vous pouvez vous retirer pour ne pas bloquer. Mais on a vu comment la population était dans les mois à Kiwanja lorsque les FARDC, qui pourtant étaient entrés sous les pagnes que les mamans leur ont tendues, on a vu les mois qui étaient ressentis par la population. Aujourd'hui, lorsque nous avons récupéré Kanyamaro, c'est un territoire national. Je crois que si on continue à tomber dans les erreurs du passé, c'est comme si on est en train d'accréditer la thèse de la balkanisation, comme si le M23 a déjà un territoire qui appartient à lui et auquel nous, gouvernement, ne pouvons pas avoir accès, sauf avis d'un expert tel qui viendrait de New York ou de Washington. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a tiré des leçons importantes de ce qui s'est passé avant, et je peux vous affirmer que la localité qui a été conquise ne verra plus les forces armées de la RDC devoir reculer derrière. Cela n'arrivera plus. Si demain on prend Kibumba, si demain on prend Rumangabo, l'ordre est déjà clair que à chaque fois qu'on récupère une localité, comme on attend un processus qui est piloté par la communauté internationale, il n'est pas question que quelqu'un demande à la RDC de voir reculer. C'est clair et net, et je mets quiconque à défi par rapport à ce que je suis en train de déclarer maintenant.
Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Franklin Matumaini de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Cette guerre semble être un jeu d'enfant et conventionnel où il y a un temps pour se battre et un temps pour se reposer. Tant que les divergences persisteront entre les décideurs congolais sur la solution à prendre, cette guerre ne prendra jamais fin. Car si pour le gouvernement provincial du Nord Kivu et d'autres acteurs de la société civile, la solution est militaire, pour le gouvernement central, la solution est diplomatique et politique. Aussi, en deuxième lieu, les fils et les filles de l'Est devraient mettre fin à la déstabilisation de leur région, car trop souvent, hélas, ils sont utilisés par les pays et acteurs étrangers pour déstabiliser l'Est.
Monsieur le gouverneur, comment vous gérez cette divergence de vues, hein? Le gouvernement central semble privilégier, n'est-ce pas, la solution politique, tandis que vous, gouverneur du Nord Kivu, avec la société civile, vous pensez que la solution est plutôt militaire. Comment vous gérez cette divergence des vues, hein, des perceptions, quoi?
Non, je ne suis pas en déphasage avec le gouvernement central. Je crois qu'il faut comprendre ce que le chef de l'État avait dit. Il avait dit il y a trois options dans la guerre qui se passe au Nord Kivu. Il y a l'option militaire, il y a l'option diplomatique et l'option politique. Et je pense que sur le plan diplomatique, le chef de l'État a réussi à emballer le monde entier pour que le monde entier comprenne effectivement que la crise qui se passe à l'Est a plus de dimensions externes que de dimensions internes. Parce que les gens pensaient que c'est la mauvaise gouvernance qui est à la base de la guerre. Et moi j'ai dit aux membres du Conseil de sécurité à Goma lorsque je les ai reçus, pour dire, si la guerre a commencé parce qu'il y a mauvaise gouvernance, pourquoi il n'y a pas de guerre au Bandundu? Pourquoi il n'y a pas de guerre au Bas-Congo? Pourquoi il n'y a pas de guerre au Kasai? Il n'y a que les enfants du Nord Kivu et une catégorie de gens qui sont intelligents, qui eux voient tout simplement ce qui ne marche pas et ce qui font de la guerre. Et je crois qu'on doit aujourd'hui commencer à comprendre effectivement que la dimension militaire a déjà été mise sur table par les chefs de l'État. Et si moi je fonce sur cette dimension, c'est parce qu'elle a été évoquée par le président lui-même. Et que donc je ne suis pas en contradiction ni avec le président de la République, ni avec le gouvernement, parce que c'est une option qui avait été décrite. Et la preuve, c'est que les Nations Unies ont appuyé en août dernier les opérations militaires. Merci. Pour déloger les M23 de Kilimanyoka, de Kibati et de Trois Antennes. Ce qui fait que la ville de Goma aujourd'hui peut respirer, les gens peuvent vaquer leurs occupations sans être dans une psychose que Goma va tomber demain. Donc je suis en phase presque totale avec le gouvernement. Peut-être une différence de degré par rapport à la perception. Pour moi qui vis avec les populations au quotidien, les affres de guerre, je vois comment il y a 1 million de mes compatriotes qui sont dans des camps, qui ne mangent pas, les enfants qui ne vont pas à l'école. Peut-être que je suis pressé, que les choses se passent très vite. Mais au niveau international, il y a des mécanismes que nous devons respecter. Merci. Moi, je l'ai toujours dit, je ne suis ni diplomate, ni de formation, ni de profession. Et donc, mon langage ne peut pas être teinté de cette diplomatie que certains ont. Moi, je vois des choses clairement et j'ai dit ce qu'il faut faire. À un niveau supérieur, on doit tenir compte de tous les mécanismes internationaux pour chercher à trouver la solution à la crise.
Mais
pour nous et la population du Nord Kivu, tellement que les gens, ils ont fait longtemps dans les camps, tellement que les gens ne savent plus accéder à leurs camps, tellement que les gens sont violés à Rutshuru, à Bunagana, à Jomba. Chaque jour, il y a des gens qui sont tués parce qu'ils n'épousent pas l'idéologie déjà du M23. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre si ce n'est de libérer ces gens militairement pour que demain, nous puissions les administrer? Ils ont besoin de nous voir. Ils nous téléphonent chaque jour pour dire quand est-ce que vous viendrez nous libérer à Rutshuru, à Jomba, à Tsengerero et partout. On doit vous dire clairement effectivement que la population qui est dans la zone M23 n'est pas en phasage avec les rebelles. Ils ne s'entendent pas. Ce sont des populations qui sont prises en otage par ces groupes de terroristes parce que je dois les identifier ainsi.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, c'est depuis plusieurs jours que la société civile du Nord Kivu dénonce des infiltrations des personnes qui arrivent pour renforcer le M23, mais on n'a pas entendu la réaction de la CIRGL. Comment vous expliquez ce silence?
Bon, je pense que je l'ai dit tantôt et
peut-être la énième fois que je le dis, de mon point de vue, d'abord le gouvernement devrait quitter la CIRGL. Pour moi, je pense que au niveau de la CIRGL, le gouvernement de la RD Congo ne gagne pas plus qu'il ne pourrait gagner, par exemple, du SADC. Et que donc, l'inaction de la CIRGL par rapport à toutes les positions prises par le gouvernement, à mon avis, ça peut s'expliquer par le fait que, premièrement, il est de notoriété, c'est déjà connu de tout le monde que c'est le Rwanda qui soutient militairement l'M23, c'est l'Ouganda également qui soutient l'M23, et que donc cette inaction de la CIRGL par rapport aux positions prises par les M23 peut s'expliquer par le fait que ce sont même ceux qui jouent à la facilitation dans le pourparler entre le gouvernement et les M23 qui tirent des ficelles et qui peuvent être à la base d'un certain nombre de choses que nos populations connaissent ici à l'est de la République démocratique du Congo, malheureusement, que le gouvernement de notre pays n'a pas dénoncé et que le gouvernement de notre pays, malheureusement, continue à suivre. Et moi, j'ai toujours dit, et je le répète encore une fois, j'étais président de la République, je prendrais tout simplement la décision de quitter la CIRGL. Mais je voudrais, si vous permettez, placer un mot également par rapport au... Moi, je voudrais appeler ça un mea culpa du gouverneur de province. Moi, je considère que le gouverneur de province, Julien Paluku, devrait être le plus actif par rapport aux orientations à donner à Kinshasa par rapport à la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit que en raison de son mandat de représentation du gouvernement central, parce que l'article 63 de la loi sur la libre administration des provinces lui reconnaît d'être le représentant du gouvernement central en province. À ce titre-là, je pense que la perception de la crise, dès lors qu'elle est erronée, il fallait s'attendre à ce que la solution soit également erronée. Mais entre-temps, des milliers de personnes sont mortes parce qu'il y a des mauvaises solutions qui ont été proposées à la hiérarchie à Kinshasa. Moi, je pense que dans des pays qui se respectent, lorsqu'on constate, par exemple, qu'on a proposé à la hiérarchie une solution qui ne valait pas la peine et qu'il en est suivi mort d'homme, on prend tout simplement la galanterie de pouvoir démissionner de son poste et de demander au gouvernement de proposer quelqu'un d'autre. Moi, je pouvais demander au gouverneur de province, encore qu'il est en train de reconnaître lui-même les erreurs qui ont été commises lors de la proposition de solution par rapport à la crise de l'Est, qu'il le soit galant tout simplement de démissionner de son poste de manière à ce que le gouvernement central puisse espérer sur d'autres expertises pour la question de la crise à l'Est de la République du Congo. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de revirement spectaculaire de la position du gouverneur des provinces. Ben, je voudrais que ces revirements puissent être aujourd'hui bénéfiques à la population du Nord Kivu et que l'on sente que l'évolution dans l'échange, dans la perception de la crise, fait appel à l'évolution dans la proposition des solutions à la crise à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci.
Et que ça nous garantisse que dans les jours qui viennent, les Congolais ne vont pas être tués encore par le M23 parce que le gouverneur a peut-être orienté très mal Kinshasa qui doit prendre des dispositions par rapport à la situation sécuritaire.
Merci, maître Jean-Paul Mulumbu. Maître Jean Morbert Nsenga, la RDC, à travers ses actions, dit tenir compte de la volonté des chefs d'État, de la CIRGL, mais apparemment, ces derniers ne lui renvoient pas l'ascenseur.
Oui, merci. En fait, si j'avais une question à poser à Monsieur le gouverneur, ce serait celle-ci, ce serait est-ce que la République démocratique du Congo est un État souverain? Si la réponse est oui, un État souverain, c'est celui qui s'assume. C'est celui qui protège son intégrité et son indépendance par tous les moyens, y compris les armes, y compris des actions préventives. Le Rwanda, on l'a vu, lorsqu'il est entré en RDC vers 96, il a justifié cette agression-là par le fait qu'il poursuivait des rebelles qui constituaient une menace contre sa sécurité, en l'occurrence les FDLR. Donc le Rwanda, comme État souverain, s'est dit on ne peut pas tolérer ça. Ah, c'est un autre débat, mais est-ce que la RDC peut continuer à tolérer la présence de groupes armés? Ce n'est pas seulement le M23, il y en a beaucoup de groupes armés sur son territoire qui font n'importe quoi, qui tuent, qui pillent, qui violent, et dire qu'il s'en tient aux décisions ou bien aux processus internationaux. Qu'on nous dise tout simplement si la République démocratique du Congo a été mise sous tutelle et qu'on nous dise depuis quand. parce que dans un État souverain, le chef de l'État qui est le garant de l'indépendance et de la souveraineté de l'État, les institutions comme le gouvernement et les autres doivent s'assumer et ne peuvent pas le tolérer. Ils ne peuvent pas se faire justifier par le fait qu'il y aurait un processus au niveau international. Ça, il n'y a aucune logique qui peut l'expliquer.
Maître, il existe aujourd'hui, n'est-ce pas, des raisons qui peuvent pousser les deux parties à continuer à croire pour parler des Kampala, ou il y a tout simplement, ils sont là, n'est-ce pas, par la force des choses, hein, ils sont là par les faits de la communauté internationale.
Je n'en vois pas. Je crois qu'ils sont là pour deux raisons, plus ou moins. La première, ce serait que personne n'a intérêt à ce que cette crise se termine. En tout cas, probablement pas les autorités à Kinshasa. La deuxième, ce serait parce que la présence du M23 peut bien continuer à menacer les populations, les pauvres populations de Rutshuru ou de Nyiragongo, les Maïmaï dans le Massif et ailleurs, mais ça ne menace pas directement le pouvoir à Kinshasa. Je pense que ce sont les deux raisons rationnelles qui peuvent expliquer l'impasse dans ce processus. Parce qu'on nous parle de solution politique. Mais quelle est-elle, cette solution politique? Écartons l'amnistie et la question de l'intégration. Parce que ça résout quoi? Makenga et les autres étaient dans l'armée nationale.
Merci.
Ils ont quitté de leur propre gré, personne ne les a chassés. Ils sont allés à Runyoni.
Merci.
Donc les intégrer, ça résout quelle question?
Merci.
La solution militaire, ce serait par exemple sur la question des réfugiés dont on parle, sur la
Merci.
Question de la présence des FDLR et puis sur les questions de gouvernance et le reste. Et pour ça, le gouvernement n'a aucunement besoin de signer un accord avec le M23 pour les mettre en œuvre. Le
Merci.
Gouvernement
Merci,
peut exécuter, les assumer sans attendre un quelconque accord.
Monsieur Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. On n'a plus assez de temps malheureusement, donc on va conclure. Vous parlez de la solution militaire. À votre avis, dans les conditions actuelles, vous pensez que l'approche militaire pourrait aboutir?
Oui, je vais d'abord commencer par répondre à la question. Si la RDC est un État souverain, je le confirme, la RDC est un État souverain, mais fragile ou fragilisé. C'est ça peut-être la nuance qu'il faut apporter. La solution voilà. militaire, pourquoi je la défends aujourd'hui? C'est parce qu'il y a trois éléments qui constituent des menaces dans la région des Grands Lacs. Je l'ai dit souvent même aux membres du Conseil de sécurité. La menace importante, ce sont les FDLR qui font que tout le temps les Rwandais nous accusent, nous RDC, d'entretenir ces rebelles contre lui. La deuxième menace, ce sont les M23 que les Rwandais entretiennent, avec lesquels les Rwandais gèrent plus de 100 kilomètres, c'est-à-dire de Kibumba jusqu'à Bunagana, les Rwandais ont accepté de gérer sa frontière avec une force négative. Ça dénote effectivement que ce qui se passe entre la frontière co-gérée, tout le monde peut savoir, peut deviner c'est quoi. La troisième menace qui implique l'Ouganda, ce sont les ADF, le rebelle ougandais qui sont la partie nord vers Beni. Et moi j'ai toujours soutenu que si on détruit les M23, les FDLR et les ADF Nalu, on aura ôté le prétexte à tous les pays qui s'entraquisent mutuellement. Les Rwandais ne va plus dire que nous entretenons les FDLR, la RDC ne va plus accuser les Rwandais d'entretenir les M23 et l'Ouganda ne va plus nous accuser d'entretenir les ADF Nalu. Or, toutes ces menaces se trouvent être sur le sol congolais. Donc, pour moi, j'estime que la solution est simple. C'est de détruire ces trois menaces et comme ça, les pays vivent calmement et le reste des questions résiduelles, comme pour savoir comment on fera des Congolais qui, par malheur, se sont retrouvés dans ces mouvements-là, c'est des questions résiduelles qu'on va traiter parce qu'on ne va pas les assommer,
Merci,
on ne va
monsieur
pas
le gouverneur,
les
tuer. On a plus assez de temps.
On devra trouver une solution. Voilà.
Merci, monsieur le gouverneur. Merci, maître Jean-Paul Mulumbu. Vous êtes avocat et point focal de la coalition de partis politiques de l'opposition Nord Kivu. Le gouvernement central n'est-il pas embarrassé par cette situation dans l'Est? D'un côté, il faut tenir compte de la communauté internationale qui estime que la solution est politique. Et de l'autre, il y a l'opinion publique pour qui la solution est militaire. Est-ce que le gouvernement congolais n'est pas embarrassé?
Tout à fait, vous l'avez dit. À la place du gouvernement congolais, je me sens vraiment très, très embarrassé parce que la position du gouvernement central, elle est claire. C'est l'option politique qu'il faut encourager. C'est justifié par la présence du gouvernement Raymond Tshibanda qui est situation aujourd'hui, par exemple, à Kampala pour clôturer le pourparlers de Kampala. Encore qu'on n'est pas sûr que ces pourparlers vont prendre fin
cette semaine, mais d'autre part, lorsque vous entendez les représentants du gouvernement central en province, le gouverneur Julien Paluku, l'option est tout à fait militaire.
Merci.
Eh bien, vous sentez qu'il y a tout à fait un embarras entre la solution.
Merci, on n'a pas assez de temps. Maître Jean-Morbert Nsenga, votre conclusion.
Ben, ma conclusion, elle est simple. Le gouverneur dit, il a raison de dire que la destruction de ces trois groupes armés étrangers serait un grand pas. Je ne crois pas que ce serait la solution finale, mais vraiment un grand pas vers la paix. Mais il demeure qui va les détruire. Il ne faut pas compter sur les casquets bleus. Le gouvernement qui doit faire cela,
merci.
Il doit donner une...
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci, à demain pour un autre thème.